Bismillahi walhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a huda. Amma ba'du, fa aujourd'hui le 16 du mois de Ramadan de l'année 1443 après l'hijra de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, nous entamons le 15e cours de notre série de cours sur l'explication des fondements de la sunna de l'imam al-Mubajjal Muhammad, de l'imam al-Mubajjal Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal al-Shaybani Rahimahullah Ta'ala. Comme je l'ai évoqué pendant le mois de Ramadan, donc ce seront des cours qui seront plus courts que d'habitude pour laisser la place à un deuxième cours sur des sujets traitant du jeûne, du qiyam de Ramadan, salat al-tarawih, de ad-du'a et autres parmi les pratiques légiférées pendant ce mois béni, Inch'Allah Ta'ala, comme nous avons fait la semaine passée. Nous étions arrivés la semaine dernière à cette partie traitant de l'apparition de l'Antéchrist, Ad-Dajjal. Il dit, Rahimahullah Ta'ala, croire au fait que l'Antéchrist, Ad-Dajjal, sortira. Il est écrit entre ses yeux, mécréant, kafir. Croire aux hadiths rapportés à ce sujet et que cela se réalisera. Al-Allama Rabi' ibn Hadi al-Madkhali hafidhahullah ta'ala dit en commentaire de cette partie de cette parole de l'imam Ahmad concernant ce sujet, de très nombreux hadiths authentiques ont été rapportés. Il y a beaucoup de hadiths au sujet de l'apparition de l'Antéchrist, donc Ad-Dajjal, et la descente du Messie, Al-Masih, qui est Isa alayhi salam, parmi lesquels figure ce que vous récitez quotidiennement dans vos prières, dans le sens de ces paroles, sallallahu alayhi wa sallam, dans ce dua légiféré, « Ô Allah, je cherche refuge auprès de toi contre le châtiment de la tombe, contre le châtiment de l'enfer, contre la tentation de la vie et celle de la mort, et contre le mal de la tentation de l'Antéchrist, Ad-Dajjal. » Ce dua, ayyou al-ikhwa, comme on l'a dit précédemment, fait apparaître la contradiction des gens de l'innovation. Comment cela? Ce dua, donc, que nous récitons après At-Tashahhud, où nous cherchons refuge contre plusieurs choses, entre autres contre l'apparition de l'Antéchrist, de même que contre le châtiment de l'enfer et le châtiment de la tombe. Comment, yarhamukallah, comment ce dua laisse apparaître la contradiction des gens de l'innovation, qui est une caractéristique principale de ces gens-là, une chose par laquelle ils se démarquent, leur contradiction au sujet des textes du Coran et de la Sunna. Hein? Aujourd'hui, il y a des cadeaux pour les frères qui répondent bien, Allah mabarak. C'est pour ça que les frères qui sont en retard là, on commence sans eux, hein? Fadal. Fadal, Yamin. Yamin, Yana. Ma droite à moi.
Les gens des passions, eux, les gens d'innovation, ils vont suivre leur passion. Ensuite, ils vont chercher le dalil qui va avec leur passion.
Ahsant.
Alors que les gens de la sunna, ils ont le dalil, ils s'accrochent et ils accrochent leur croyance sur le dalil, sur la preuve.
Ahsant. Donc, ça, c'est une règle qu'on a évoquée précédemment. Comme l'a rappelé votre frère ici, Hafidhahullah. Le fait que les gens de l'innovation, une caractéristique principale qui les démarque, يعتقدون ثم يستدلون, c'est-à-dire qu'ils croient en une chose, ils y croient fermement, puis ils demandent, ils recherchent la preuve de cette chose. À l'inverse des gens de la sunna, qui recherchent la preuve, qui demandent la preuve, la recherche, et suite à cette preuve-là, si cette preuve est authentique, ils y croient, ils construisent dessus leur croyance, leur aqida. Ceci est une caractéristique principale des gens de la sunna, de même qu'une caractéristique principale des gens de l'innovation, qui est son contraire. Et comment donc, dans ce hadith, ou dans ce dua, nous voyons cette contradiction apparaître clairement?
Idrissa, tfaddal. il demande protection contre le châtiment de la tombe.
Ahsant. Dans ce dua, le prophète sallallahu alayhi wa sallam demande protection contre le châtiment de la tombe, de même que contre l'antéchrist dans ce dua qui est rapporté ici. Ici, nous avons parlé dans le cours précédent, celui qui a précédé, du châtiment de la tombe, et nous avons dit que les gens de l'innovation ne croyaient pas, n'affirmaient pas le châtiment de la tombe. Et nous allons voir aussi aujourd'hui que les gens de l'innovation n'affirment pas, certains d'entre eux, l'apparition de Ad-Dajjal, ou s'ils l'affirment, ils l'interprètent. Wa alaykoum salam wa rahmatullah. Et autre que cela, parmi ces croyances qui sont évoquées dans ce dua, ou dans autre que cela parmi l'ahadith, qu'ils réprouvent, malgré que ces derniers affirment l'authenticité du hadith et que dans les règles religieuses, ils le pratiquent. C'est-à-dire que les gens de l'innovation, concernant la prière, ils affirment ce hadith et le pratiquent dans leur prière. C'est-à-dire qu'ils récitent ce dua après at-tashahud. Pourquoi ? Parce que pour eux, ce hadith-là est un hadith qui a attrait à des règles jurisprudentielles, des règles en relation avec la prière. De même que, comme nous l'avons vu dans les cours précédents, sur le châtiment de la tombe, ce hadith qui se trouve dans les deux recueils authentiques, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam est passé auprès de deux tombes et a dit ces deux-là sont châtiés dans leur tombe. Celui-ci, car il ne se préservait pas de son urine, il ne se nettoyait pas ou il ne se cachait pas lorsqu'il faisait, a'azzakumullah, ses besoins. Et celui-là, car il pratiquait la calomnie, an-namima. Les gens de l'innovation, qui eux-mêmes n'affirment pas le châtiment de la tombe, affirment ce hadith et en tirent des enseignements qui ont attrait aux règles jurisprudentielles ou à des règles concernant les bons comportements, comme l'interdiction de la calomnie, de même que l'obligation de se nettoyer de son urine, a'azzakumullah. Nous voyons ici leur contradiction. Ils n'affirment pas la croyance qui est contenue dans ce hadith suite à une croyance qu'ils ont déjà. Ils ont cette croyance qu'il n'y a pas de châtiment de la tombe. Ils ont cette croyance, cette aqida. Et lorsqu'ils cherchent une preuve ou lorsqu'ils trouvent une preuve qui contredit cela, ils n'affirment pas cette croyance qui contredit leur propre croyance. Nous voyons ici donc la contradiction des gens de l'innovation. Puis il dit, Hafidahullah ta'ala, les hadiths rapportés au sujet de Ad-Dajjal et de la descente de Isa sont très nombreux, comme on le verra. Bien sûr, la descente de Isa, alayhi salam, Jésus, le fils de Marie, alayhi salam, est un sujet qui sera traité dans le fondement prochain, que nous traiterons la semaine prochaine, Inch'Allah ta'ala. Les hadiths sont nombreux, parmi lesquels celui d'Ibn Umar, de Anas, de Hudayfa, d'Ibn Mas'ud, d'Abu Huraira et autres, se trouvant dans l'authentique de l'imam muslim. Il dit, Hafidahullah, il parle de l'apparition de Ad-Dajjal et affirme que chaque prophète a mis en garde contre lui. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a mis en garde contre lui en disant, je vous mets en garde contre lui, je vais vous dire une chose que nul n'a dite avant moi, il est borgne de l'œil droit. Ici, une chose très importante, ayyuhal ikhwa, le fait que, comme l'a évoqué ici Cheikh Rabi', hafidahullah, l'ensemble des prophètes et messagers ont mis en garde contre la tentation de Ad-Dajjal. Ils ont mis en garde contre ce grand menteur, car ceci est le sens de Ad-Dajjal. Ad-Dajjal qui vient du verbe Dajjala, en arabe, qui veut dire mentir. Donc Ad-Dajjal, c'est le grand menteur. Ad-Dajjal, le grand menteur. Et ils ont mis en garde pour l'ensemble d'entre eux contre eux, cette personne et sa tentation que nous allons évoquer dans le cours d'aujourd'hui. Ou ses tentations avec lesquelles il viendra, que nous allons évoquer dans le cours d'aujourd'hui, Inch'Allah ta'ala. Et notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dans ce hadith, qui est rapporté par l'imam al-Bukhari, qui a été évoqué par ici par Cheikh, hafidahullah, nous informe de cela et rajoute qu'il va nous informer, c'est-à-dire nous, sa communauté, d'une chose que ses frères parmi les prophètes et messagers n'ont pas informé avant lui, le fait qu'il est borgne de l'œil droit. Et ceci est une caractéristique évidente et principale de Ad-Dajjal, comme on va le voir ici. Et beaucoup de hadiths ont été rapportés sur son œil. Yarhamukallah. Sur le détail de son œil, cet œil droit, comme nous allons le voir dans le cours d'aujourd'hui. Il dit ensuite, Hafidahullah, il apparaîtra avec un paradis et un feu, une rivière en feu et une rivière de paradis, selon ce qui paraîtra aux yeux des gens. Or, en réalité, la rivière de paradis est du feu, yarhamukallah, et celle du feu est le paradis. Le messager sallallahu alayhi wa sallam a recommandé que lorsque le croyant verra ce qui paraîtra en feu aux yeux des gens, qu'il en boive. Il baissera la tête, fermera les yeux et en boira, car c'est une eau froide. Et le paradis est celui qui paraîtra aux gens, aux yeux des gens, comme du feu, qu'Allah nous en préserve. Puis il dit, Hafidahullah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, « Je connais ce que possède Ad-Dajjal mieux que lui-même. » Je connais ce que possède Ad-Dajjal mieux que lui-même. C'est-à-dire que Ad-Dajjal ne saura pas que cette rivière avec laquelle il viendra, qui sera aux yeux des gens qui apparaîtra comme étant du feu, sera paradis et vice-versa. Lui-même ne le saura pas. Alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam le sait, donc il le sait mieux que Ad-Dajjal et il nous en informe afin de nous en préserver. Et les hadiths parlant de Ad-Dajjal, l'antéchrist, sont nombreux, et ceci car sa tentation est grande, comme l'a évoqué notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il dit donc, Hafidahullah, le messager sallallahu alayhi wa sallam connaît donc mieux Ad-Dajjal, ou il connaît donc mieux qu'Ad-Dajjal ce qu'il possède. En effet, Ad-Dajjal ne sait pas que cette rivière est du feu et que l'autre c'est le paradis. Puis il dit, Hafidahullah, sur le front de Ad-Dajjal, il est écrit « Kafir, mécréant ». Tout croyant, aussi bien lettré qu'illettré, pourra le lire. Ces choses concernant Ad-Dajjal, comme ce que nous avons vu précédemment, « Al-Shafa'a », de même que le châtiment de la tombe, de même que « Al-Hawd », le bassin du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, de même que « Al-Mizan », la balance, de même que ce que nous allons voir au prochain cours concernant la venue de Isa, la descente de Isa alayhi salam, tous ces hadiths et toutes ces croyances sont de l'attrait de l'invisible, des choses qui ne sont pas encore arrivées, ou des choses qui sont de l'attrait de l'invisible, comme ce qui a été rapporté dans le châtiment de la tombe. Donc il nous est impératif d'y croire selon ce qu'impliquent les textes du Coran et de la Sunna. Et il n'y a aucune place dans ces croyances pour la raison de l'être humain. Il dit donc, tout croyant aussi bien lettré qu'illettré pourra le lire. Comment une personne illettrée pourra le lire? Ceci sont des choses de l'invisible, des choses que nous informe notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il nous convient d'y croire, comme le dit l'imam Ahmed dans l'ensemble de ses fondements, à la fin de chacun de ses fondements qu'il évoqua, et ceci est la voix des gens de la sunna, « Sami'na wa ata'na », nous avons entendu et obéi. Et comme vous le savez, comme l'a rappelé notre Seigneur tabaraka wa ta'ala dans les premiers versets de Sourate al-Baqarah, l'une des caractéristiques principales des croyants est qu'ils croient en l'invisible. Ahsantum. Donc tout croyant, aussi bien lettré qu'illettré, pourra le lire. C'est un signe précis qui montre qu'il est mécréant. Et ce, contrairement à celui qui porte un habit islamique au nom de l'islam, qui porte un slogan islamique, mais qui ne fait pas partie de l'islam. Nous pouvons citer parmi eux Al-Shi'a Al-Rawafid. Al-Shi'a Al-Rawafid, qui eux se prétendent de l'islam, mais dans ces derniers, leur religion n'a rien à voir avec la religion des musulmans, comme vous le savez. Et il n'est pas anodin de citer cette secte, Al-Shi'a Al-Rafida, car ces derniers ont une croyance précise concernant Ad-Dajjal, de même que certains signes de la fin des temps, notamment Al-Mahdi, que je vais évoquer soit au cours d'aujourd'hui, soit au cours prochain, car la venue de Al-Mahdi, même si elle n'est pas évoquée ici dans le livre de l'imam Ahmed, dans les traités de la Sunna, dans les fondements de la Sunna, la venue de l'Mahdi a une place importante dans la croyance du musulman, et notamment lorsque nous parlons de la venue de Dajjal ou la descente de Isa, alayhi salam, Jésus le fils de Marie, alayhi salam. Et ces derniers ont donc une croyance particulière concernant le Mahdi, de même que Ad-Dajjal, et il faut savoir que, comme le disent nos savants, ces derniers seront parmi les suiveurs de Ad-Dajjal. Car, parmi les suiveurs de Ad-Dajjal, de l'Antéchrist, comme il est rappelé dans des hadiths authentiques, des juifs venant de Isfahan, qui se trouve en Iran. Et nous voyons que l'état de Ar-Rawafid se trouve en Iran. L'Iran est un état chiite, rafidi, qui porte haut l'étendard de cette croyance, alaykoum salam wa rahmatullah, qui n'a rien à voir avec notre religion. De même que, comme le disent nos savants, la base de la croyance des chiites, Rawafid, est le judaïsme. Ces derniers seront ceux qui suivront Ad-Dajjal, c'est pour cela qu'il est bon de rappeler cette secte égarée à ce moment-là, de même que nous allons l'évoquer lorsque je vais parler de leur croyance concernant Al-Mahdi, car beaucoup, ayyou al-ikhwa, de traités que vous pouvez lire, et pour celui qui ne fait pas la différence, celui qui ne parle pas ou qui ne comprend pas la langue arabe premièrement, mais même celui qui la parle et qui la comprend, il faut savoir que beaucoup de traités sur Al-Mahdi que vous trouvez, que ce soit sur Internet, malheureusement, aujourd'hui Internet est devenu une base de données vers lesquelles se tournent beaucoup de musulmans pour apprendre leur religion. Encore une fois, ce n'est pas cela la base de laquelle nous apprenons notre religion, comme vous le savez, mais aussi dans beaucoup de librairies. C'est pour cela qu'il est important de choisir les livres que tu lis, de même que la librairie où tu achètes ces livres-là, etc., etc., pour ne pas tomber dans cette erreur et ne pas acheter ou ne pas emprunter même un livre qui ne sera pas bon. Je dis emprunter comme par exemple quelqu'un qui vient dans une mosquée. Alhamdoulilah, ici nous sommes dans une mosquée qui est sur la sunna. L'ensemble des livres sont des livres qui sont sur la sunna, bifadlillahi azza wa jal. Mais lorsque tu viens parfois dans une mosquée, tu t'assois et tu prends un livre, tu empruntes un livre pour le lire, tu t'assois et tu ne sais pas si ce livre est un livre qui est un livre des gens de la sunna ou autre. Et parfois, comme on a pu le voir dans plusieurs mosquées, comme on a pu, walillah alhamd, le sortir de plusieurs mosquées, des livres de chiites dans certaines de nos mosquées, des mosquées qui ne sont pas des mosquées chiites. Mais ces gens-là viennent et propagent leur poison de cette manière-là. Ils viennent, ils mettent un livre, parfois ils donnent des appellations qui appellent les gens à la sunna. Ils font croire que ce sont des gens qui aiment la sunna, mais à l'intérieur, il n'y a que des mensonges et de la falsification de notre religion. Faites bien attention à cela. Comme je l'ai dit, beaucoup de traités qui parlent de Al-Mahdi, que ce soit des livres ou des paroles sur Internet, sont des paroles de Al-Shi'a. Sont des paroles de Shi'a. Ils écrivent beaucoup de livres sur cela et ils ont des croyances très erronées à propos de cette personne, Al-Mahdi. Et j'avais déjà fait une khutbah précédemment pour ceux qui ont assisté. Concernant Al-Mahdi, j'avais donné aussi une petite parole après la khutbah pour expliquer la croyance des gens de la sunna sur Al-Mahdi, chose que je ferai, je pense, la semaine prochaine lorsque nous parlerons de Isa, alayhi salam. Car comme je l'ai dit, la croyance en la venue de Al-Mahdi est en relation avec celle de l'Antéchrist et de la venue de Isa, alayhi salam. Pour revenir sur notre cours d'aujourd'hui, donc concernant Ad-Dajjal, l'Antéchrist. Que ce soit l'apparition de l'Antéchrist ou la venue de Isa alayhi salam, ceux-ci font partie, ces deux-là donc font partie des signes annonciateurs de la fin des temps. Et avant cela, ces deux croyances, la croyance en la venue de l'Antéchrist comme la croyance en la venue de Isa alayhi salam, font partie de la croyance au jour dernier, qui font partie des six piliers de la foi, comme vous le savez. Et ceci est obligatoire pour tout musulman d'avoir cette croyance. Et ceci même est le sens de l'aqida, la croyance, comme nous l'avons dit. Quel est le sens de l'aqida? Nous avons l'habitude de répéter l'aqida Al-Aqida. Mais quel est le sens de ce mot Al-Aqida qu'on traduirait par croyance? Que veut dire la croyance? Hein? Normalement, tout le monde lève la main et tout le monde sait ce que veut dire la croyance. Puisque nous venons assister à un cours de croyance, le cours du dimanche généralement est un cours de croyance depuis tout ce temps. La croyance, Al-Aqida. On a l'habitude de dire le plus important est d'apprendre l'Aqida. Mais qu'est-ce que veut dire l'Aqida? Saïd, tfaddal. Ça, c'est, ce sont les bases sur lesquelles se repose l'Aqida. Ce sont d'où l'on prend l'Aqida. Mais qu'est-ce que l'Aqida? La définition de ce terme, l'Aqida, tfaddal.
Ça vient du mot Aqid qui veut dire le
nœud. Ahsant.
C'est ce à quoi le cœur s'est lié comme croyance et certitude.
Ahsant. Ce à quoi le cœur s'est lié, donc l'aqida qui vient de l'uqda, ou de l'aqd, qui est le nœud. Donc ce à quoi c'est lié, comme un nœud, le cœur, parmi les croyances et les certitudes. Et ces croyances, quelles sont-elles? La croyance en Allah.
Hein?
Au jour dernier, Ahsantum, et le destin, la présentation, bonne ou mauvaise. Donc ici, ce qui est en question ici, l'aqida, ya ayyuhal ikhwa. On dit l'aqida, c'est la chose la plus importante. Il n'est pas convenable qu'un frère salafi qui respecte sa croyance et son manhaj ne connaisse pas exactement ce qu'est l'aqida. Chose à laquelle nous appelons, la première chose à laquelle nous appelons, cette chose à laquelle on a appelé l'ensemble des prophètes et messagers. Car l'ensemble des prophètes et messagers, appelés à l'unicité d'Allah tabaraka wa ta'ala, de même que Islah al-Aqaid, la réforme des croyances. Wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasula an ya'budu Allah wa yajtanibu at-taghut. Nous avons certes envoyé dans chaque communauté un messager qui leur dit adorez Allah et écartez-vous de at-taghut. L'appel à l'adoration d'Allah azza wa jalla seul et sans associé. Et la mécréance, le fait de mécroire en at-tarout. Donc l'appel à l'unicité d'Allah, tabaraka wa ta'ala, les bonnes croyances, de même que la réforme des croyances. Barakallahu fikum. Donc, nous avons dit que tout ce que nous avons étudié précédemment, que ce soit al-shafa'a, donc l'intercession, la croyance au châtiment de la tombe, de même que la croyance en la balance, al-mizan, de même que la croyance en al-hawd, de même que l'apparition de l'antéchrist, de même que la descente de Isa, alayhi salam, toutes ces parties évoquées par l'imam Ahmed dans ce livre traitent de la croyance ou font partie de la croyance des gens de la sunna ou des croyances des gens de la sunna en au jour dernier. Tout ceci, toutes ces parties-là rentrent dans la croyance au jour dernier, qui fait partie de l'un des six piliers de la foi. Ceci en premier lieu. En deuxième lieu, comme je l'ai dit, l'apparition de l'antéchrist comme la descente de Isa font partie des signes avant-coureurs de l'heure. L'heure, le jour du jugement. Ces signes avant-coureurs sont de plusieurs sortes. J'avais déjà évoqué cela dans des cours précédents. Est-ce que quelqu'un s'en rappelle? On avait évoqué trois sortes de signes. Certains parmi les gens de science disent deux sortes de signes. Mesh, Salih, tfaddal.
Les signes précurseurs, les signes mineurs et majeurs.
Donc les signes précurseurs avant-coureurs de l'heure sont de deux sortes. Chez plusieurs parmi les savants, ils disent, et ceci est une sous-catégorie ou une catégorie, une manière de catégoriser ces signes qui est exacte. On dit les signes avant-coureurs majeurs et mineurs. Donc, al-ashrat, puisque en arabe les signes, on appelle ça al-ashrat, comme il est venu dans le Coran, faqad jaa'a ashratuha. Al-ashrat, qui veut dire donc les signes, qui est le pluriel de. Hein? Ahsant, qui est le pluriel de charat, et non de chart, de charat, le pluriel asharat, donc les signes. Et on dit aussi al-amarat, comme il est rapporté dans quel hadith? Ahsant, dans le hadith de Jibril. Donc, on appelle ça asharat al-sa'a wa amarat al-sa'a, les signes de l'heure. Et les savants ont dit que les signes de l'heure sont de deux sortes. Donc les grands signes, al-alamatul kubra, al-asharatul kubra, wa-sughra, et les petits signes. Ils ont aussi fait un autre détail que cela. Salih, tfaddal. Ils ont fait un autre détail. Est-ce que quelqu'un s'en rappelle? Je donne un livre, pas plus. Par personne. Ah, Kamel, tfaddal.
Les signes qui sont déjà passés.
Uh-huh.
Les signes qui ne sont pas encore passés.
Uh-huh.
Et les signes qui vont se répéter. Qui vont continuer.
Ahsante. Ahsante. Tfaddal. Ahsante. Donc, vous avez entendu votre frère Kamel, il a dit, comme on l'avait déjà évoqué, dans quel... Étude. Hein? À quel moment on a évoqué ça? Lorsqu'on a expliqué les trois fondements. Quand j'ai expliqué le hadith de Jibril, alayhi salam. Les savants ont divisé aussi les signes de l'heure en trois sortes. Les signes qui sont passés et qui ne reviendront plus. Comme par exemple, la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, hein? L'apparition du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Ahsant, le fait que la lune s'est fendue, et autre que cela, parmi ces signes avant-coureurs de l'heure qui sont venus et qui ne reviendront pas, qui sont passés. La deuxième sorte, des signes qui sont déjà apparus et qui continuent d'apparaître, comme par exemple la disparition de la science, la propagation de l'ignorance, la propagation du meurtre, et autre que cela. Et ces signes qui ne sont pas encore apparus, et parmi ces signes qui ne sont pas encore apparus, les grands signes de l'heure. Les grands signes de l'heure sont au nombre de 10. Ceci d'après la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Vous ne verrez pas l'heure, ou l'heure ne se lèvera pas, dans le sens de ces paroles, jusqu'à ce que viennent 10 signes. Et il est rapporté aussi parmi, ou il est évoqué parmi les paroles des savants que certains signes, autres que ces 10 signes, font partie aussi des grands signes de l'heure. Mais ce qui est voulu par ces grands signes qui sont évoqués dans ce hadith, qui est rapporté par l'imam muslim, donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il dit dans le sens de ses paroles, l'heure ne se lèvera pas jusqu'à ce que viennent ou qu'apparaissent 10 signes, sont les signes qui annoncent l'arrivée imminente de l'heure. Et ces 10 signes, quels sont-ils? Est-ce que quelqu'un les connaît, les 10? Si vous ne les connaissez pas, écrivez-les. Les 10 signes annonciateurs de l'heure. Il faut savoir, juste une petite parenthèse par rapport à cela, que il n'y a pas de preuve sur l'apparition d'un signe avant l'autre. Ou il n'y a pas de preuve qui nous montrerait avec certitude que tel signe est le premier des signes. De même que celui qui le suit est le et tel signe, et tel signe, et tel signe. Plutôt, plusieurs narrations sont rapportées comme cela, et les savants de la sunna ont fait donc un effort d'interprétation. Certains d'entre eux se sont arrêtés et ont dit qu'ils ne savent pas quel est le premier signe qui apparaîtra, et d'autres ont dit que le premier signe qui apparaîtra est le tel ou tel, et ceci est un effort de leur part. Donc ces signes, parmi ces 10 signes, sont la venue de Ad-Dajjal, l'antéchrist. La descente de Isa, alayhi salam, que nous allons étudier dans le cours prochain, incha'Allah ta'ala. La sortie de Gog et Magog, Ya'juj wa Ma'juj. Le quatrième de ces signes, le lever du soleil de son couchant. Le cinquième de ces signes, cette bête qui sortira de la terre et qui parlera aux gens, qui est évoqué dans le Coran, comme dans la Sunna. Le sixième de ces signes, la fumée, une fumée qui recouvrira le ciel. Le septième de ces signes, et qui en réalité, ce signe-là, les savants sont d'accord pour dire que c'est le dernier signe, des signes de l'heure qui apparaîtront, à l'inverse de leur divergence concernant le premier signe, quel est-il? C'est la sortie d'un feu de la ville de Adan, au Yémen. Un feu qui réunira les gens et qui les chassera vers la terre du rassemblement. Ard al-Mahshar, la terre du rassemblement. Puis les trois derniers sont réunis sous une seule dénomination, pardon, c'est trois tremblements de terre. Ici, on a évoqué sept signes, plus trois tremblements de terre, un tremblement en Occident, un tremblement en Orient et un tremblement de terre sur la péninsule arabique. Ces dix signes sont les dix signes, les dix grands signes avant-coureurs de l'heure. Et donc, comme vous l'avez vu, l'un de ces grands signes est la venue de Ad-Dajjal, l'antéchrist, qui est le sujet du cours d'aujourd'hui. Ici, une règle qui est très importante concernant les signes de l'heure, ayyuha al-ikhwa, que j'ai déjà évoqué précédemment. Celui qui s'en rappelle, il prend ce livre-là, inshallah. Est-ce que tous les signes de l'heure, tout ce qui est évoqué comme étant un signe avant-coureur de l'heure, sont des choses qui sont interdites dans notre législation ou des choses blâmables dans notre législation?
Je peux répéter la question.
Est-ce que toutes les choses qui ont été évoquées dans les hadiths concernant les signes de l'heure sont des choses qui sont blâmables ou interdites dans notre législation?
Non, c'est bon.
Omar.
Non, c'est bon. On avait cité l'exemple que quand on va se comporter dans les baptistes, les constructions de baptistes, on avait dit que ce n'était pas forcément quelque chose de
mauvais. Ahsante. Une chose qui est connue chez les gens de la masse, faites bien attention, une chose qui est connue chez les gens de la masse, faites passer ça à Omar, barakallahu fikoum. Une chose qui est connue chez les gens de la masse est que tout ce qui est évoqué comme étant un signe de l'heure est quelque chose de blâmable, est quelque chose que l'on pointe du doigt. Et vous les entendez souvent parler de certains pays, par exemple, parmi les pays musulmans, et dire « Regardez ces derniers, ils construisent des hautes bâtisses. » Et c'est venu dans ce hadith, le hadith de Jibril en l'occurrence, que notre prophète sallallahu alayhi wa sallam nous informa que le fait de se concurrencer dans les bâtisses ou l'élévation des hautes bâtisses est quelque chose qui fait partie des signes de la fin des temps. Sans aucun doute ceci, la concurrence, et en particulier de cette sorte de gens qui a été évoqué ici, c'est-à-dire des gens qui à la base étaient des bergers, des gens qui n'avaient pas d'argent, qui n'avaient pas de chaussures, qui en viennent à se concurrencer dans l'élévation de hautes bâtisses, est une chose particulière. Mais le fait de dire que se concurrencer dans l'élévation des bâtisses, ou en tout cas le fait de bâtir de hauts édifices, est quelque chose de blâmable, ceci n'est pas vrai. Et il pointe du doigt certaines personnes, dans certains pays en particulier, en disant « Regardez, ces derniers pratiquent une chose qui est évoquée comme étant un signe avant-coureur de l'heure. » Ceci est faux. Ce n'est pas toute chose qui est évoquée comme étant un signe avant-coureur de l'heure qui fait partie des choses blâmables. Nous pouvons citer aussi le fait que la péninsule arabique, comme il est rapporté dans plusieurs hadiths authentiques, redeviendra verdoyante comme elle l'était précédemment. La péninsule arabique, qui est en très grande partie composée de déserts, reviendra verdoyante comme elle l'était précédemment. Est-ce que ceci est une chose blâmable? Est-ce que ceci n'est pas une chose que nous aimons? De même que ce qui est rapporté comme la conquête de certaines contrées, comme la conquête de Al-Qustantiniyya, par exemple, Ceci est une chose que les musulmans aiment et apprécient. Ce n'est pas quelque chose de blâmable. Pourtant, ceci est rapporté parmi ces signes. Donc, ceci est une règle concernant les signes de l'heure. Ce n'est pas toute chose qui est rappelée comme étant un signe de l'heure qui est forcément quelque chose de blâmable ou quelque chose qui est interdit. Donc tu ne peux pas prendre un hadith et dire « cette chose-là est interdite puisque ça fait partie des signes de l'heure ». Non, ce n'est pas comme ça. Pour terminer le cours d'aujourd'hui, donc pour résumer notre croyance concernant Ad-Dajjal, le fait que ce dernier Ad-Dajjal, le faux messie donc, sortira. Et ceci fait partie des signes avant-coureurs de l'heure, des grands signes avant-coureurs de l'heure. Il viendra de l'Orient. Il viendra de la province de Al-Khurasan. Et il sortira avec un grand nombre de juifs venus de Aspahan, Isbahan. Et il parcourra la terre, il rentrera dans chaque endroit, sur terre, chaque contrée, sauf Mecca ou Al-Médina, la Mecque et Médine. Comme il l'a dit lui-même, Ad-Dajjal. Comment il l'a dit lui-même? Ayyou al-Ikhwa, tfaddal akhi.
Car il y a deux anges et un ange à la porte qui garde.
Ahsant, ça c'est Ahsant, barakallahu fik. Ce que je veux dire, comme il l'a dit lui-même, donc Ad-Dajjal. Merci, tfaddal.
Je crois que le hadith, il dit qu'un homme il a rencontré Ad-Dajjal sur une île, je crois. Il lui a parlé de.
C'est pas exactement ça, mais jazakallahu khair. Un hadith qui est évoqué dans, qui est rapporté, pardon, dans le Sahih de l'imam Muslim, qui est communément appelé Hadith al-Jassasa. Al-Jassasa, qui veut dire l'espionne. Ce hadith qui est rapporté par notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, faites bien attention à ayyuhal ikhwa, par notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qu'il rapporta d'un de ses compagnons. Quel est ce compagnon? Hein? Mais qui a dit avant? Hein? Tfaddal Houd. Tfaddal Marhaban. J'ai plus beaucoup là. Tfaddal. Prends celui-là avec, Inch'Allah. Prends Isnay, Inch'Allah. Ahsant. Parmi donc ces hadiths, et ceci est le seul hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam donc rapporte de quelqu'un qui est en dessous de lui. Et ceci nous montre l'autorisation et le fait qu'il n'y a pas de mal dans cela. Plutôt, ceci était la voie de nos pieux prédécesseurs. Le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a rapporté ce hadith de quelqu'un.
Et avant, c'est les frères, ça commence à rentrer des...
Approchez-vous, s'il vous plaît, les frères, pour laisser la place aux prieurs qui vont venir pour la prière. Ce hadith, donc, qui est rapporté par le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam de Tamim ibn Aous ad-Dari, radiallahu anhu, qui était auparavant chrétien et qui est rentré en islam. Ce grand compagnon, Tamim ibn Aous, rapporte cette histoire qu'il a vécue lui-même et le prophète sallallahu alayhi wa sallam la rapporte de lui. Il rapporte donc que ce compagnon, Tamim ibn Aous, lui a rapporté une histoire. Qu'un jour, pour résumer cette histoire, le hadith de Al-Jassasa, que vous trouvez qui est un long hadith qui se trouve dans le Sahih de l'imam Muslim, où un jour il était en mer, Tamim, avec un groupe de 30 personnes. Et les vagues ont joué avec eux jusqu'à les emmener sur une île. Les ont fait dériver jusqu'à les emmener sur une île. Quand ils descendirent sur cette île, ils trouvèrent une bête, qui est elle, Al-Jassasa, donc l'espionne, une bête étrange, poilue, dont on ne connaissait pas le devant du derrière de cette bête-là. Et cette bête qui les orienta vers une caverne où se trouvait un homme immense, comme le dit Tamim ibn Aous ad-Dari, radiallahu anhu, qu'il n'a pas vu un homme aussi immense que lui, qui était attaché par des chaînes sur l'ensemble de son corps. Et cette personne lui posa des questions sur telle et telle chose. Est-ce que vous avez combattu l'Arab? Est-ce que vous avez triomphé contre? Est-ce que telle ou telle chose est encore arrivée ou pas encore? Et il leur annonce à l'écoute de leur réponse que telle chose va arriver. Et lorsque Tamim raconta cette histoire au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui informa que cette personne était Ad-Dajjal. Donc Ad-Dajjal est présent. Il est sur une île qui a été découverte par Tamim et dont personne ne connaît l'emplacement, sauf Rabbul Izzah, tabaraka wa ta'ala. Et il le fera sortir quand il le voudra, tabaraka wa ta'ala. Et donc, cette personne, Ad-Dajjal, dans ce hadith, les informa de plusieurs choses, comme le fait qu'il parcourra la terre. Qu'il parcourra la terre et qu'il rentrera dans n'importe quelle contrée, ou dans toutes les contrées, pardon, hormis la Mecque et Médine. Il ne pourra pas y rentrer, comme l'a dit votre frère, car des anges se placeront aux abords de la Mecque et Médine et l'empêcheront de rentrer. Il faut savoir que ceci fait partie aussi donc des particularité de Dajjal, qui lui a été interdit de rentrer à la Mecque et Médine. De même que Ad-Dajjal, comme on l'a dit, comme l'a dit Cheikh Rabi ici dans l'explication, est la plus grande fitna, le plus grand trouble, la plus grande tentation qu'aura connue l'humanité, et ce jusqu'à la levée de l'heure. Il viendra, comme vous l'avez entendu, avec plusieurs rivières, avec deux rivières, pardon, une de feu et une qui apparaîtra aux gens comme étant le paradis, et le paradis sera le feu, et le feu sera le paradis, comme vous l'avez entendu précédemment dans l'explication de Shir. Il fera sortir les trésors de la terre, il ordonnera à la terre de faire sortir ses trésors, et la terre lui obéira par la permission d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Car ce dernier est une tentation pour les gens. Il fera sortir les trésors de la terre et des gens donc le suivront. Mais le croyant, celui qui a cette foi ancrée dans son cœur, lira sur, entre ses deux yeux sur son front, écrit « mécréant ». Et il saura que cette personne est « ad-dajjal ». De même, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a mis en garde comme ses frères avant lui, parmi les prophètes et messagers, comme je l'ai évoqué dans le cours, contre cette tentation. Et il nous détailla et nous décrit comment sera cette personne ad-dajjal. Il a évoqué donc ces choses que nous avons évoquées. Il a évoqué aussi le fait qu'il était borgne. Et cette chose, comme l'a rapporté ici Cheikh Rabi, donc ce hadith qui se trouve dans le Sahih de l'imam al-Bukhari, où il dit, sallallahu alayhi wa sallam, dans le sens de ses paroles, je veux vous dire une chose que nul n'a dit avant moi, aucun parmi les prophètes et messagers n'a dit avant moi, il est borgne de l'œil droit. Et cette personne ad-dajjal qui prétendra être le Seigneur des mondes, tabaraka wa ta'ala, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam de dire dans un autre hadith, innahu a'war wa inna rabbakum laysa bi'a'war. Il est certes borgne, donc le ad-dajjal, et votre Seigneur n'est pas borgne, tabaraka wa ta'ala. Donc comment pourrait-il être votre Seigneur alors que ce dernier, qui prétend être votre Seigneur, est borgne? De même que la caractéristique par laquelle se démarque cette personne, son œil droit, qui sera borgne. Il est rapporté dans plusieurs hadiths que cet œil sera de telle et telle manière. Il est rapporté qu'il sera comme un raisin sec, rabougri. Il est rapporté que cet œil sortira. Il est rapporté aussi qu'il sera comme du verre de couleur verte. Kazoujajatil khadra. Et autre que cela, parmi ces détails poignants et détaillés que nous a fait notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, ceci afin de nous mettre en garde contre la fitna de cette personne, il nous l'a détaillé. Et pour terminer là-dessus, il nous expliqua, ou il nous orienta, sallallahu alayhi wa sallam, vers des choses par lesquelles nous pourrons nous préserver de cette personne ad-dajjal. Parmi ces choses, sans aucun doute, la croyance authentique, puisque, comme on l'a dit, tout croyant authentique, on fera l'adhan après, vous pouvez saluer si vous voulez. Tout croyant qui aura qui aura véritablement la foi lira cette inscription entre ses yeux, sur son front, kafir, mécréant. Donc sans aucun doute, la foi véritable est une des armes les plus importantes par lesquelles nous nous défendrons contre cette personne ad-dajjal et contre sa fitna, contre sa tentation. De même qu'il est rapporté dans plusieurs ahadiths où le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous orienta vers la lecture sur ad-dajjal lorsqu'il apparaîtra de Sourate al-Kahf. Et il est rapporté les 10 premiers versets comme il est rapporté les 10 derniers versets. Et donc nous voyons que la lecture de Sourate al-Kahf, sans aucun doute, est une arme par laquelle nous nous défendrons contre cette grande tentation ad-dajjal. Et la suite de ce qui est en relation avec ad-dajjal concerne la descente de Isa, puisque c'est lui, Isa alayhi salam, Jésus, fils de Marie, qui le tuera à la porte de Loud en Palestine, comme nous le verrons dans le cours prochain, incha'Allah ta'ala, wa ilahuna wa billahi tawfiq, wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad, wa alhamdulillahi rabbil alamin.